les médias francophones publics.
Radio France, RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la dernière librairie francophone de la saison, une émission réalisée aujourd'hui dans nos studios de Montréal avec une belle surprise. Comme je vous l'annonçais la semaine passée, il y a des surprises pour cette dernière avant l'été, à tel point que nous avons dû modifier carrément notre programme et vous proposer comme ça la meilleure émission possible. Je vous raconte, il y a quelques jours, nous avons appelé une grande actrice, réalisatrice et chanteuse québécoise. Je lui ai proposé de venir aujourd'hui en lui donnant carte blanche. Alors non seulement elle a accepté, mais elle est venue avec une invitée de marque. Bonjour Carole Laure.
Bonjour.
Comment allez-vous Carole?
Je vais très très bien.
Ah, mais je suis ravi de vous retrouver ici. Merci beaucoup de venir une nouvelle fois dans cette émission. On avait fait un beau reportage ensemble dans le Mile End. Vous souvenez ?
Un quartier que j'adore.
Oui. Ah oui, c'était formidable. Oui. C'était pour la librairie francophone estivale il y a 2 ans. Vous êtes donc venu accompagné de Perrine Leblanc.
Oui, Perrine Leblanc, qui est une autre que j'ai connue d'abord comme auteure.
Oui.
Puis après, je l'ai contactée.
Oui.
Parce que j'aimais beaucoup son roman Malabour. Et en tant que cinéaste, j'avais envie d'adapter Malabour à l'écran.
Oui.
Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais au fil du temps, on est devenus des amis.
C'est ça.
De grands
amis. Alors, on va accueillir Perrine Leblanc tout à l'heure. Bonjour Perrine.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça
vous êtes
très bien.
Presque une habitude de cette émission parce qu'on a parlé de vos romans. Effectivement, Malabour, publié chez Gallimard dans la collection Blanche. Et vous avez une sacrée notoriété à travers la francophonie désormais. Merci d'être là, Perrine.
Merci.
Un autre invité sur notre plateau, l'auteur dramatique, acteur et metteur en scène Larry Tremblay, qui publie un livre poétique incroyable, un coup de poing littéraire contre les violences du monde. Bonjour Larry Tremblay.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous, c'est incroyable, il faut rester à l'écoute, votre livre est dingue Larry.
Ah merci.
Autre surprise, ou plutôt un cadeau sonore, un grand reportage en Haïti sur les hauteurs de Port-au-Prince avec le Suisse Michel Monin, grande figure de l'art haïtien. Il nous a accueillis dans sa grande maison-galerie entourée d'artistes.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine pour représenter le Canada aujourd'hui avec nous en plateau dans le studio 17 de Radio-Canada où nous sommes installés. C'est le détonnant Jérémy Lagniel.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jérémy.
Vous allez bien ?
Oui, vous avez fait une sacrée saison avec nous. Hein. Plein de coups de gueule, vous avez attaqué plein d'auteurs, c'était formidable.
J'ai ça.
Oui.
J'ai surtout lu plein de livres, il y en a plusieurs que j'ai adorés, hein. on l'oublie souvent.
C'est vrai. Mais vous êtes un passionné en tout cas. Merci d'être avec nous en Belgique. On retrouve Nathalie Clairin de la librairie de la Mazrine à la Hulpe. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Très bien, merci.
Pour la France, c'est Mathieu Colombe qui est avec nous depuis Aix-en-Provence, dans les studios de France Bleu Provence. Bonjour Mathieu.
Et bonjour Emmanuel.
Quel temps fait-il dans le sud de la France ? Magnifique.
Évidemment, comme tous les ans, il fait beau, il fait chaud, mais il était temps que ça arrive.
En Suisse, c'est Dominique Bressot de la librairie Une Petite Prose, à Boudry, qui est là aussi. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Vous retrouverez nos libraires dans la librairie francophone version télé à partir du 29 juin sur RTBF La 3, RTS 2, ici RTV et sur TV 5 Monde. Dernière émission de la saison également avec la participation exceptionnelle de Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, qui sera entouré du Suisse Joël Dicker, du dramaturge français Olivier Py, de la franco-libanaise Vénus Corrigata et du belge Françoise Keuten. On commence tout de suite cette émission avec deux histoires, deux anecdotes étonnantes. Racontée par Carole Laure et Larry Tremblay. Double ration cette semaine. Carole, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous tenez à la table?
Mais c'est parce que je réfléchis à ce que je vais vous raconter.
Bon alors, en commençant par Larry Tremblay.
Oui, s'il vous plaît.
Allez-y Larry.
D'accord Carole. Mon récit politique s'appelle L'œil soldat, j'ai pensé à une anecdote reliée à l'œil. Donc cette anecdote remonte à l'époque où j'étais étudiant de Kathakali.
Oui.
Donc le Kathakali est une danse classique du sud de l'Inde que j'ai étudiée de longues années.
Ah bon?
Oui. Oh. Et dans un petit village qui s'appelle Cheruturuti, qui m'a toujours fait penser à Chicoutimi.
Oui.
Donc j'étais un peu moins perdu.
Oui, oui.
Et donc je suivais la troupe de Kathakali en tournée. Puis j'allais les voir après le spectacle en train de se démaquiller. Et là, je constatais que tous les acteurs avaient les yeux rouges, 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 rouges. Et je me disais, moi, petit étudiant de Kathakali, comme c'est épuisant de jouer un spectacle de Kathakali. Et plusieurs semaines plus tard, j'ai appris en fait... fait que ce n'est pas la fatigue qui rougit l'œil de l'acteur, mais ils se mettent une petite graine de fleur sous la paupière inférieure de l'œil.
Ah bon?
Et juste avant d'entrer en spectacle, et ils gardent cette graine tout le long du spectacle, et cette graine gonfle et irrite le blanc de l'œil.
Mais ça sert à quoi?
Ça sert à faire en sorte que le blanc soit rouge, parce que c'est des maquillages incroyables, et le rouge fait ressortir le regard de l'acteur.
Incroyable. C'est bon pour le cinéma, ça?
Oui. Et puis, moi, j'étais très fier, lors de mon premier spectacle, de jouer avec une petite graine de fleur dans l'œil.
C'est génial!
Carole Laure, votre histoire.
Moi, je vais prendre son histoire, je vais m'en acheter des petites graines de fleurs. Ça remonte il y a longtemps parce que je chantais beaucoup à l'époque avec Lewis Fury, puis on faisait beaucoup de tournées, des spectacles en France, et tout d'un coup France 2 à l'époque, la chaîne de télévision, nous dit française, nous dit carte blanche, vous faites un variété show et vous invitez qui vous voulez et vous les faites chanter. À l'époque, je tournais avec Depardieu, donc on avait demandé à Depardieu qui a dit oui, un autre, et tout d'un coup je dis à Lewis, pourquoi on n'invite pas Marguerite Duras? Marguerite Duras, elle a une voix magnifique quand elle parle. Ça serait génial qu'elle vienne chanter. Alors, on l'invite et on lui explique la chose. On veut faire une... Elle dit d'accord, mais à une condition. Je veux être assise dans un fauteuil et être filmée de dos. Nous, on trouve ça génial. On s'est dit, c'est génial, on va être assise dans un fauteuil, on va la faire chanter de dos. Oui,
le grand mystère, quoi.
On arrive à France 2. À l'époque, c'était Marie-France Brière, je crois, qui était directrice de l'émission. Elle dit, voyons, les spectateurs vont zapper, ils vont jamais accepter de regarder une vieille femme assise de dos en train de chanter. Nous, on avait... Donc, c'était une grande déception. Voilà mon anecdote.
Ah, du coup,
ils ont refusé.
D'accord, elle est pas venue.
Je ne vais pas le croire. Pour nous, je pense que ça aurait été génial.
Mais oui.
D'avoir
Miles Davis jouer le dos tourné.
Mais tiens, c'était pas une chanteuse. On aurait dit Marguerite Duras et de dos, elle chantait une chanson de Lewis Croque la Lune. Ça aurait été génial.
Et du coup, elle n'est pas venue.
Non, elle n'a pas. Ils n'ont pas voulu.
La déception.
Ouais.
Bon, merci pour cette histoire. Carole Laure et Larry Tremblay sont dans la librairie francophone cette semaine. Et Carole, à carte blanche pour cette dernière librairie avant l'été. Votre histoire avec Perrine Leblanc est une rencontre. Avant tout, c'est une sorte de coup de foudre professionnel.
Oui, mais d'abord, j'adore la littérature. J'ai lu beaucoup, j'aime ça. J'ai toujours écrit mes scénarios toute seule, à partir d'une feuille blanche. Et là, j'avais envie de trouver un roman à adapter. Je tombe sur Malabour, donc je la rencontre et je lis Malabour et je trouve ça formidable. J'adore. Donc, finalement, à la longue, on n'a pas adapté ce roman parce qu'il y avait une partie très très forte avec une espèce de thriller.
C'est difficile à transposer à l'écran.
Puis la deuxième partie, c'était difficile. Donc, on a dit, on va faire un autre projet ensemble.
Et une série télé, alors.
Oui, mais depuis ce temps-là, on se voit beaucoup, mais au fil du temps, moi, je l'aime beaucoup comme personne, comme écrivain, bien sûr, puis je trouve ça exceptionnel qu'elle soit éditée chez Gallimard, puis qu'elle ait un tel succès. Donc, j'ai lu tous ces autres romans. Je sais qu'elle va en sortir un autre bientôt.
Oui, très bientôt sur l'Irlande, m'a-t-elle confié.
Mais elle vous racontera elle-même. Oui. Mais c'est une fille que j'aime vraiment, et j'aime l'écriture, donc je pense qu'on s'entend, elle comprend aussi mon cinéma, je pense qu'on peut s'entendre très bien pour faire une série télévisée, ce qu'on concocte en ce moment.
Depuis 4 ans, vous êtes sur une série télé.
Ben, 4 ans. C'est long. C'est pas comme le cinéma.
Ben oui, c'est ça.
C'est pas facile.
Perrine Leblanc, c'est un coup de foudre, Carole Laure, depuis longtemps pour vous. Soyez sincère, artistiquement, quand vous la connaissiez pas.
J'ai rencontré son œuvre après l'avoir rencontrée comme personne. Je connaissais Carole Laure, l'actrice, le mythe.
Oui, de nom.
On connaît tous Carole Laure. Et ensuite, j'ai vu
elle adore qu'on dise ça.
Des films. Je dois quand même préciser que Carole est très jeune. C'est ce qui est exceptionnel. J'ai l'impression d'une amitié avec une femme de mon âge. Il y a chez elle une curiosité intellectuelle et culturelle extraordinaire et une jeunesse renouvelée.
C'est vrai.
Vraiment fascinant. Et c'est une grande lectrice. Elle a une bibliothèque que j'aimerais avoir, que j'aimerais posséder, cette bibliothèque. C'est magnifique.
Mais toi aussi, t'es quand même pusher des fois. Des fois, elle me suggère des bonnes choses aussi.
En amitié, oui.
On échange.
Bon, oui. Puisqu'on est à Montréal pour cette dernière librairie francophone, on va parler de la Gaspésie, qui n'est pas très loin finalement. Enfin, c'est pas si loin que ça.
9 heures de voiture, oui.
Ouais. Pour le Canada, c'est pas si loin.
C'est pas si loin. C'est quand même, les distances sont impressionnantes au Québec. Le train ne se rend pas jusqu'à chez moi en Gaspésie. Il faut prendre une voiture, donc c'est vraiment 9 heures de voiture.
9 heures, oui. On dit que la Gaspésie, c'est l'Irlande du Québec. Pourquoi dit-on ça?
Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une péninsule. On a quelques falaises qui ne sont pas aussi impressionnantes que les falaises irlandaises. Et au 19e siècle, quelques bateaux irlandais remplis d'immigrants qui ont fait naufrage. Et certains de ces naufragés se sont installés en Gaspésie, je pense notamment dans le coin de Gaspé. Mm-hmm. Le Carrick, qui est un coffin ship irlandais, qui a fait naufrage en 1847, dont on a identifié récemment les ossements retrouvés sur la plage. Donc, il y a bon quelques anglophones, des pêcheurs qui se sont installés aussi du côté de la baie des Chaleurs, qui est une baie que la Gaspésie au Québec partage avec le Nouveau-Brunswick, notre province canadienne.
D'accord. Alors, dans cette petite ville, Malabour, il y a des meurtres. Ces filles disparaissent, trois disparaissent, assassinées, et ces meurtres vont traumatiser tous les habitants, dont Mina, qui va rendre justice à sa manière.
En jouant un peu au détective malgré elle, je tiens à préciser que Malabour est un village fictif. Je me suis inspirée de quelques villages, dont le village natal de ma mère en Gaspésie, pour imaginer ce lieu, qui est un lieu qui ressemble un peu au monde sombre des contes.
C'est un mix, c'est ça?
C'est un mix, oui, ouais. C'est un mix. Mais bon, là, je me suis installée, j'ai acheté une maison en Gaspésie l'année dernière. Je me rends compte que cette maison-là aurait pu se retrouver dans Malabour. Elle cadre parfaitement.
Et puis, il y a l'esprit de la campagne. C'est ça que vous évoquez aussi. C'est compliqué à la campagne quand on a des meurtres qui se produisent. Ça traumatise le village et tout le monde se sent concerné. Il y a quelque chose de très fort dans la relation humaine.
Il y a quelque chose de très fort dans la relation humaine et la Gaspésie est un vaste territoire. Est très peu peuplé. Alors, les gens se regroupent en petits villages, petites communautés, et ça crée une dynamique, forcément. Donc oui, s'il y a un meurtre et trois jeunes femmes qui disparaissent, évidemment, le drame va bouleverser la vie de tout le village.
Carole Laure, vous avez passé votre enfance à la campagne, vous aussi, à Shawinigan.
Une petite ville, oui, Shawinigan, au bord de Saint-Maurice.
Oui, en Mauricie.
En Mauricie. Puis je vivais sur la deuxième rue, la première étant carrément au bord de l'eau. Donc j'ai toujours vécu au bord de l'eau. Autour de Shawinigan, il y a plein de lacs. Donc c'était toujours ça, l'été c'était au bord du lac, puis le reste du temps, quand j'allais à l'école, c'était au bord de la rivière.
Ça change d'être au bord de l'eau? Ça change l'identité?
Ça fait qu'on a besoin toute sa vie après d'être proche de l'eau.
Eh oui.
Moi, je sais qu'aujourd'hui, je vis à Montréal, mais
tu es tout frais s'il n'y avait pas cette accès-là.
Ah, j'ai tout frais, j'étais toujours juste à Montréal, donc je suis dans les Laurentides au bord d'un lac. Et c'est très, très important, je ne sais pas, j'ai besoin d'aller sur l'eau, j'ai besoin. Je ne suis pas une fille de mer, je ne connais pas la mer. Périne connaît la mer, mais moi, non.
Tu viendras me voir.
Oui, c'est ça. Mais j'aime beaucoup, beaucoup être sur l'eau. Ouais. Je vais en canoë tout l'été, j'aime ça. Je vais en canoë sur un lac où il n'y a pas de bateau à moteur, je vois des animaux partout.
Il faut que t'enjambes des barrages de castors.
Oui. Sur la rivière, j'ai une chute au loin, donc on passe par-dessus le barrage de castors. Quand j'ai des amis français qui viennent à Morin Heights, au bord d'un lac, ils capotent, c'est le mot de le dire, ça capote en ville, dans ma maison.
Bon, Jérémy Laniel est avec nous. Vous connaissez bien l'œuvre de Perrine Leblanc. Vous avez lu, évidemment, Malabour. C'est un livre que vous avez aimé, je crois.
Oui,
fait partie de vos coups de cœur.
Autant L'homme blanc, Colia, chez Gallimard, que Malabour, ces deux livres qui ont eu une résonance, je crois, dans la francophonie, vous le disiez en ouverture. Et aussi, je trouve ça particulier parce qu'on est en plateau. Il y a 50% des auteurs québécois publiés chez Gallimard, Collection Blanche, autour de la table, avec Larry Tremblay et Perrine
Piercing, Larry Tremblay, vous avez
exactement. Fait, oui. Je trouve ça fascinant de voir quand même, on voit en ce moment une littérature québécoise qui s'ouvre beaucoup dans la francophonie, en France, en Europe. Et on a ici deux précurseurs de générations différentes qui ont été mettre chez Gallimard aussi, oui, Larry Tremblay. Donc, je trouve que c'est important qu'on puisse avoir ce rayonnement-là et cette lumière sur notre littérature.
C'est une fierté, oui.
Ouais.
Alors, il est question des odeurs, Perrine Leblanc, dans ce livre, avec des parfums, les odeurs qui nous guident dans la vie. C'est animal, ça, les odeurs. Même l'odeur des autres peut nous en rapprocher ou nous en écarter.
Et l'odeur des animaux aussi.
Eh oui.
Je ne supporte pas l'odeur du chien de ma mère, alors que mon chat peut puer et je vais le trouver formidable. Donc, je peux vraiment...
Ta mère doit être contente.
Oui. Je vais lui demander de pas écouter l'émission. Mais oui, j'étais fascinée dès la jeune enfant, toute jeune, j'étais fascinée par les odeurs, l'odeur de la main. Vous savez, quand on transpire, je sentais mes mains, je détectais les fuites de gaz avant tout le monde. Donc, j'ai très sensible aux odeurs. Et forcément, ça devient une obsession et ça me marque.
Carole Laure, les odeurs aussi?
Oui, c'est très curieux. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote là-dessus.
C'est votre émission aujourd'hui.
Depuis mon enfance, depuis que je suis bébé, j'ai toujours aimé me respirer comme ça. Respirer ma propre odeur.
La main,
et même
la paume de la main.
Et même têter ma main. J'ai têté longtemps ma propre main. jusqu'à ce que j'avais une espèce de petite tétine ici, là, qui se développait. Ah oui. Et un jour, j'ai rencontré au cours de ma carrière beaucoup d'écrivains et des psychologues, des psychiatres. Et j'ai rencontré un psychiatre qui me dit « T'as pas connu ta mère, t'as été séparé de ta mère à la naissance. » Et c'est typique des enfants qui sont séparés de la naissance de la mère.
Vous avez été adopté. Hein.
Oui, mais c'est à la naissance. Donc, oui, c'est sûr que si j'étais arrachée tout de suite à la mère... Je fais ça encore aujourd'hui quand je suis angoissée. Je retrouve, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette manie.
C'est du réconfort.
C'est du réconfort. Mmh. Il m'a expliqué que... Et ma mère adoptive, qui était géniale, je me dépêche parce qu'il faut donner la parole aux autres. Ma mère adoptive ne me ressemblait pas du tout. Elle était ronde avec des taches de rousseur, des yeux bleus. Puis elle portait des robes à fleurs. D'ailleurs, je mets toujours des robes à fleurs dans mes films, aux femmes. Elle avait... D'ailleurs, je passe mal, là. Elle avait pas de manches, mais elle avait des gros bras... potelée et rousse, avec des taches de rousseur. Et elle me laissait faire. Je m'assoyais à côté d'elle et je têtais son bras. Parce que j'aimais son odeur. Donc l'odeur, pour moi, marche avec mère.
Oui, et c'est une question d'identité aussi.
Oui, oui.
Comment vous l'avez construite, votre identité, Carole Laure, dans le monde professionnel? Tout le monde dit que vous êtes complètement indépendante, que vous avez fait des choix très personnels, que vous ne vous êtes laissé influencer par personne. Et c'est vrai, que ce soit dans la musique, au cinéma ou ailleurs, à chaque fois, vous avez fait ce que vous avez voulu faire. La musique, on a dit, mais pourquoi elle continue pas, la musique? C'est vrai, pourquoi vous n'avez pas continué?
J'ai trop tourné... Je trouvais pas que j'étais une grande chanteuse, mais j'aimais beaucoup la musique, mais ça a vendu beaucoup, donc j'ai tourné partout dans le monde, puis ça m'a fatiguée parce que j'aime ma famille, j'aimais mes enfants, puis je voulais pas être partie tout le temps. Mais là, il se pourrait bien que Lewis et moi, on fasse une dernière fois, après tant d'années, on retourne sur scène tous les deux avec des extraits de tous nos albums, parce que Lewis a fait un Selected Songs. Et ces Selected Songs ont marché. Peut-être que tout le monde nous pousse à faire ça.
Oui.
Peut-être que je vais finir par le faire.
Et tu changes, cavalière de rechange. T'entends pas passer l'ange, les yeux bandés. Mais n'oublie pas, pour le dernier tour, toi et moi on a signé. Et danse, danse avec.
Quelle magnifique chanson,
mais ça,
Carole.
Ça m'a fait faire le tour du monde.
Mais oui,
grâce
danse
au clip,
avant de tomber.
À cause du clip fait avec Louise Le Cavalier. C'était de la danse contemporaine. Moi, j'étais une fan totale de Louise Le Cavalier. J'étais presque trop amoureuse d'elle. J'allais la voir partout, tout le temps. Louise, c'était un choc artistique pour moi. Et elle avait accepté de faire un clip qui était complètement contradictoire avec le thème de la chanson. Ça fait le tour du monde.
Ouais, et on le voit, ce clip sur Internet, si on veut le voir.
Oui,
il est magnifique.
Mais à cause de ça, c'est pour ça que j'ai tourné partout aussi.
Et vous chantez magnifiquement bien sur cette chanson.
Bon, je sais pas. En tout cas,
mais c'est sublime, ça procure une émotion incroyable, Carole, je vous assure.
Mais je la rechanterai en spectacle.
Bah voilà, allez, faisons ça. C'est la sincérité qui vous a guidé tout le temps.
Oui, mais
la
j'ai
sincérité
toujours...
dans tout.
Je marchais toujours par désir. Il faut que je sois en état de désir. Et je n'aime jamais regarder en arrière. J'aime pas. J'étais attirée par les sujets des films que je tournais. J'étais pas attirée par mon rôle. J'étais pas une actrice qui se regardait. J'étais attirée par la technique. Faut dire que j'avais été à la bonne école avec Gilles Carle au départ. J'ai fait 8 ou 9 longs métrages avec Gilles Carle. J'étais très jeune. Et lui m'a tout enseigné. J'ai appris la technique. J'ai appris à avoir des yeux, des caméras dans les yeux. J'étais fascinée par tout sujet d'auteur, parce qu'on m'offrait aussi tout le cinéma commercial. De la vedette, de ceci, de cela.
Vous avez refusé beaucoup de choses. Hein.
J'ai énormément refusé. Parce que
mais vous regrettez aujourd'hui ou pas?
J'aimais mieux faire un premier film, essayer ceci.
Vous regrettez?
Pas du tout. Je regrette pas et j'aime réaliser maintenant. Je vais faire certainement encore un 5e film. J'aime faire ce que j'ai envie de faire. Mais je regarde pas en arrière. Il y a beaucoup d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, de ci, de ça, qui regardent leur œuvre. Moi, ça m'intéresse pas.
Mais vous auriez pu faire beaucoup plus de choses. C'est ça que je veux dire.
Mais je tournais beaucoup.
C'est que vous manquez au public, Carole Laure.
Là, c'est parce que je suis cachée derrière la caméra.
Eh oui.
Mais j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait 4 longs métrages.
Eh oui, quand même.
Qui
étaient
sélectionnés à Cannes les deux premiers, avec Locarno. J'ai fait de la promotion des films dans les pays. On dit, on vous voit plus. Comme actrice, mais oui, mais je suis derrière. Je peux pas produire, écrire un scénario pour réaliser, puis être devant.
Bon, en tout cas, vous êtes d'une simplicité incroyable et d'une grande générosité.
Ah bon,
Perrine Leblanc a raison, vous êtes d'une jeunesse éternelle. Moi, je crois que je vous vois, vous rajeunissez, Carole. Je sais pas ce qui se passe. C'est incroyable.
J'ai une bonne hérédité.
Bon, merci beaucoup à toutes les deux. Vous allez bien sûr rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ouais. Perrine Leblanc, Malabour, est publié aux éditions Gallimard, on l'a dit, et en poche chez Folio. Pour l'été, c'est parfait. Un petit livre de poche, comme ça.
Merci.
Dans un instant, Larry Tremblay va vous parler d'un petit livre qui condamne et décrypte les fondements de la violence, comme rarement on l'a fait. français, avec des mots et un rythme poétique époustouflant. Restez bien à l'écoute. Avant cela, voici une nouveauté musicale québécoise. Fouki a 21 ans, il est la nouvelle figure montante du rap québécois. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Yeah, j'suis positif, yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif, yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans la vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, j'ouvre les portes comme un serrurier. Workman les jours fériés, oh, oh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Fais quoi de bien avant maman, oh, oh, oh. On garde le smile. Pas juste pour la night, yeah. Faut mettre les efforts, yeah. J'm'échappe au gorillard, yeah. Y'a juste une profasse, yeah. J'essaie d'être comme personne, yeah. C'est pour ça que j'ai percé, yeah. Soupçon de percé, yeah. Plus une forme dans le cabanon, hey. First place au marathon. Pendant que tu fais des by wrong. Moi j'ai work hard, j'suis resté strong. Yeah, on se rafraîchit le brain. Sève du bon pied matin. Rien à foutre des chiales. J'ai le talent, puis j'ai chance. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif. So j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Mon papa me dit dans la vie, sois pas trop difficile. J'aime mon meilleur, yeah. J'ouvre les portes comme un serrurier. Work my mes jours fériés, oh, oh. J'veux pas avoir de remords, même c'est pour ça que j'travaille fort. Fais quoi de bien avant maman, oh, oh, oh. J'vois que c'est les cours pour work le rap. Maintenant j'ai trouvé le boulot de rêve. Mes profs pensaient que j'étais à des rêves. Mais non, la zik est pas pour faire. C'est bien triste, la vie c'est pas comme un jeu. Des fois t'as pas toujours ce que tu veux. Fais-toi pour un film juste pour aller mieux. T'es pas Alexandre bienheureux. Il faut work hard pour le pain. Faut toujours refaire le plein. Pour pouvoir racheter du temps. Pour recommencer demain. Up, bang, up, bang. Yeah, j'suis positif. Yeah, j'suis positif. Ma maman me dit dans la vie, sois pas négatif.
C'était Fouki avec Positif.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La dernière émission à Montréal aujourd'hui avec le célèbre auteur dramatique, metteur en scène et acteur québécois Larry Tremblay pour un livre très étonnant, saisissant. On a rarement parlé des violences du monde de cette façon. On vous connaît Larry pour votre roman L'Orangerie. Vous avez publié aussi une vingtaine de livres. Vos pièces sont traduites et jouées dans le monde. Et là vous êtes entre le théâtre et la poésie pour parler de la violence. C'est la forme la plus adéquate pour traiter le sujet.
Je pense qu'il n'y a pas de forme adéquate pour parler de guerre, de violence, de conflit ethnique. J'avais l'impression, en terminant ce livre, de fermer un cycle, commencer avec une pièce de théâtre, Cantate de guerre, continuer avec L'Orangerie, et finalement, avec L'œil soldat, aboutir à une espèce de synthèse. Mmh. Et ce qui fait que, oui, c'est de la poésie, mais en même temps un récit. En fait, c'est un projet très, très ancien chez moi. Je dirais ancien parce que ça remonte à une lecture d'adolescence de la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, qui est aussi un récit poétique, qui est un trajet de Moscou qui traverse toute l'Europe. Et j'ai toujours eu le fantasme d'écrire un récit avec cette dynamique, cette scansion.
Alors, vous nous plongez dans le corps et l'esprit d'un jeune homme. À partir de son enfance, il apprend la vie, il explore les différences, regarde le monde à différentes époques, dans différents contextes aussi, homme, femme, blanc, noir. Il endosse toutes les identités et son constat est implacable au sujet de la violence. Qu'est-ce qui conduit à la violence, Larry Tremblay ?
Bah, disons que c'est y a la peur, évidemment, la peur de l'autre. Et puis, il y a aussi la transmission. C'est-à-dire que quand j'ai écrit L'Orangerie, j'ai beaucoup réfléchi au fait que la haine est enseignée, en fait, et on l'enseigne aux enfants. Et c'est très difficile ensuite de briser ce cercle.
C'est-à-dire, on leur enseigne.
On enseigne le fait que l'autre est un ennemi, n'est pas un homme, n'est un chien. En fait, on essaie de déshumaniser l'autre pour mieux le tuer, pour mieux l'annuler finalement. Et si on met ça dans la tête d'enfant, c'est très difficile de l'enlever. Donc ça vient beaucoup de la transmission de la haine.
Et c'est ça qui explique qu'un jour, un homme puisse se lever et choisir d'en tuer un autre dans la rue, dans une famille, dans un conflit.
Oui, mais il n'y a pas que ça aussi. Parce que vous savez, prenez l'exemple des génocides. On pense toujours que c'est un acte de barbarie et que c'est une pulsion meurtrière qui surgit et qui fait qu'en sorte des gens tuent d'autres gens. Mais en fait, c'est que c'est toujours annoncé, propagandé, théorisé un génocide. Donc, c'est la puissance des mots, mais dans leur puissance néfaste qui précède toujours l'acte de barbarie qu'on appelle génocide.
Votre personnage, en tout cas, a passé un pacte avec le diable. Il semblerait qu'il ait été perturbé par le choix qu'on nous impose à nous tous, à savoir ce choix entre le bien et le mal. Ça lui paraît bien peu, dit-il. Sauf que le monde, Larry Tremblay, il est constitué autour de ces deux oppositions, dans toutes les cultures, avec le yin et le yang aussi, les religions, la morale, tout nous guide pour nous détacher du mal.
Oui, absolument. Dans la première partie, l'œil gauche, parce qu'il y a le gauche, oui, le droit, oui, il est confronté à découvrir qu'il y a le bien, mais le bien ne peut pas exister sans le mal. Et on lui parle de Dieu, mais Dieu ne peut pas exister sans le diable. Donc, pour toutes sortes de raisons, il fait un pacte avec le diable, et d'un clin d'œil, il peut changer, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, de sexe, d'époque,
ouais,
et il va expérimenter la haine sous toutes ses formes, et il va se retrouver bloqué, c'est-à-dire que son, j'appelle ça l'œil soldat, ne peut plus se fermer, et donc il devient une machine à tuer.
Oui, mais qu'est-ce qu'il voudrait d'autre en dehors du bien et du mal?
Ben, c'est pour ça que...
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre?
Ce livre provoque le lecteur et l'amène
à réfléchir,
et à trouver des raisons personnelles.
Vous êtes malin, comme ça, vous y allez pas.
Non, mais chaque personne doit faire ce...
Bon, on va voir avec les libraires, d'accord? Alors, les quatre ont lu votre livre, Larry Tremblay. On commence par qui? La Suisse, la Belgique, le Canada ou la France?
Le Canada.
Le Canada. Jérémy Laniel, c'est à vous.
C'est un livre étrange, hein, Les Soldats. C'est pas vraiment un recueil de poésie. C'est encore moins une pièce de théâtre. Encore vraiment moins un roman. Mais c'est un livre qui vraiment tire sa force en déstabilisant son lecteur. Et je crois que c'est comme ça à chaque page. Et quelques semaines plus tard, on se ramasse encore en clignant des yeux à être aux confins de ces conflits les plus violents-là que l'écriture de Larry Tremblay a à offrir. C'est quand même bien fait.
La Belgique, ça vous va avec Nathalie Clairin?
Bien sûr.
Allons-y, Nathalie.
Oui, tout à fait. Un petit livre très interpellant, selon moi, tant au niveau fond qu'au niveau forme. Tout d'abord, j'ai apprécié de voir traiter par la poésie ce sujet qui est si indispensable qu'universel. Et en même temps, j'ai trouvé efficace un ton de récit proche de la prose. Parce que c'est engagé, c'est dur, on parle de massacre, de génocide, d'où c'est bien des phrases courtes, sans fioritures et un vocabulaire très riche. De plus, Monsieur Tremblay, je trouve que d'un point de vue littéraire, vous excellez dans les métaphores et les métonymies.
Ah, ça, il y en a des métaphores. La France, Mathieu Colombe, êtes-vous d'accord?
Oui, complètement, parce qu'on entre dans ce texte comme on entre en guerre. C'est d'ailleurs un coup à se réconcilier avec la poésie, si on s'était embrouillé avec elle, évidemment. Attention au lecteur, néanmoins, on ne sort pas de cette lecture indemne. Par contre, si vous aimez vous faire heurter un minimum, si vous aimez la belle langue et les textes ciselés et incisifs comme des scalpels, alors allez-y, les yeux fermés. D'ailleurs, on ne devrait pas lire ce texte à voix basse, on devrait le scander à voix haute.
Eh ben, vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Avec Carole Laure, qui a accepté de lire un extrait. On va écouter Dominique Bressot juste après, en Suisse, on ne l'a pas oublié. On va entrer dans le texte, tout de suite, et on va le faire ressentir à nos auditeurs. Voici donc ce texte, lu par Carole, sur une musique que vous avez choisie de Philippe Glass.
Je ne trouve pas à l'horreur de point final. Où respire le pire? Cette fatigue des chiffres, ils sortent de la chair, insectes inépuisables. Faut-il un silence de 1000 siècles pour faire agir le verbe apaiser? Faut-il une plaine de 100 000 lunes pour qu'un seul arbre fier se lève de tout son vert? Y a-t-il un chant plus beau que celui du visage quand par l'aube il est cueilli? Pourquoi rangeons-nous nos mots odieux dans le cerveau des enfants? Pourquoi ne souillons-nous pas de nos bottes de sang quand nous entrons dans l'âme des enfants?
Carole Laure, qui lit Larry Tremblay. Vous êtes très ému, Larry.
Oui, oui, ça me touche.
Vous avez les larmes aux yeux.
Bah, tant mieux, alors.
Elle lit merveilleusement bien. C'est très, très beau. Avec ses enfants, effectivement, que l'on salit avec nos mots. C'est ça que vous dites, en fait.
Bah, je répète ça depuis l'orangerie. Mmh. Je pense qu'il faut le répéter souvent, parce que l'enfant, C'est ce qui est primordial.
Bon, je vais vous laisser vous remettre de vos émotions. Je sais pas, c'est pas dit en même temps parce que Dominique Bressot va intervenir.
Très touchant, c'est très fort, ça.
Oui, c'est très,
très
fort.
Très beau. Je veux le livre tout de suite, moi.
On va vous le donner, Carole. Dominique, en Suisse, qu'en pensez-vous?
Ah, moi, j'adore. Vous savez, il y a des poèmes, on les chuchote. Il y en a d'autres qu'on murmure. On les lit lentement pour s'en imprégner. Mais là, on est vraiment dans la déclamation, mais presque dans le cri. On est poussé, on est bousculé d'un vers à l'autre. Et les mots nous explosent en plein visage, surtout dans la deuxième partie du livre. J'ai trouvé ça presque angoissant, mais en fait, ça donne envie de faire entendre ces poèmes très très forts pour couvrir le bruit des armes dans le monde.
Voilà, Larry Tremblay, vous êtes servi. Vous allez me faire pleurer, Larry.
Quand même. Merci,
j'arrête de vous regarder.
Non, mais merci aux quatre libraires.
C'est la dernière en plus, là, j'ai trop d'émotions.
C'est magnifique.
Bon, vous nous incitez à ouvrir les yeux aussi, Larry Tremblay. L'œil gauche d'abord, puis l'œil droit. L'œil gauche, l'œil de l'enfance et de l'innocence. L'œil droit, finalement, qui est l'œil de l'évolution pervertie. Quel œil ouvrez-vous chaque jour, Larry?
Ben, en fait, je n'en ai qu'un. Silence de mort.
C'est-à-dire?
Non, c'est-à-dire que de naissance, je ne vois que d'un œil.
Ah bon?
Oui, d'où l'importance chez moi de l'œil. Et en fait, mais mon œil est là, il est là.
Oui,
c'est
oui,
pas
bah
un œil
oui.
de verre.
Oui,
là.
Je confirme. Oui.
Mais sauf qu'il ne le voit pas vraiment.
Ah bon?
Alors, ça m'a rappelé, c'est étrange, le premier recueil de poésie que j'ai écrit s'appelle La place des yeux. Et 25 ans plus tard, j'écris L'œil soldat. En fait, je pense que je suis fasciné par le regard.
Bah, et je ne savais pas du tout. Je termine avec cette question sans savoir. Je promets que c'est vrai. Et c'est la magie de je ne sais quoi. C'est bizarre, mais on a des anges avec nous. Merci, Larry Tremblay. Je vais pas pouvoir continuer comme ça. L'émotion est à son comble. Oui. L'œil soldat, on va arrêter là.
Oui.
Est paru aux éditions La Peuplade. À suivre, donc, voulez-vous rester avec nous, hein, Larry? On va rester
bien
quand même jusqu'à la fin de l'émission.
Oui.
À suivre des livres pour l'été conseillés par nos libraires et un reportage en Haïti à la Galerie Monin sur les hauteurs de Port-au-Prince. On écoute tout de suite le chanteur ivoirien Tiken Jaffa Coli qui revient avec un tout nouvel album. Il sera la semaine prochaine dans la librairie francophone estivale pour la première émission de l'été depuis les Francofolies de Montréal où nous serons pour un club francophone exceptionnel. Merci à vous de nous écouter à travers le monde.
Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud.
Encore combien de temps vont-ils nous mettre la disquette? C'est sur le dos des mêmes qui font leur plus grosse recette. Y'a le sang d'innocents sur les mains de leurs boulettes.
Je suis à bout de souffle. Je vois les fleuves faner. L'atmosphère nous étouffe. Ils ne font que promettre. C'est foutre de la morale. Ils n'ont qu'une chose en tête, c'est leur paradis fiscal.
Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud.
Kenja Fakoli, la contribution de Soprano avec ce titre très estival mais qui dit beaucoup de choses. Le monde est chaud dans la librairie francophone. Kenja Fakoli qui sera donc la semaine prochaine dans la librairie francophone estivale.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici à Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et les libraires ont pour mission de vous conseiller en 30 secondes un livre pour l'été. On commence avec deux premiers conseils. Commençons par la Suisse, Dominique Bressou.
Oui, alors moi j'ai un coup de cœur sur le 7e tome du Manifeste incertain de Frédéric Pajac. Ça relate les biographies de Emily Dickinson et Marina Tsvetaeva. Et il a reçu le prix Goncourt de la biographie pour ça. Et croyez-moi, c'est totalement mérité, c'est magnifique.
Marina Tsvetaeva, effectivement, dont parle aussi dans un livre Vénus Corrigata, que vous retrouverez à la télévision avec nous. Merci pour ce conseil, Dominique. Le Manifeste incertain, volume 7 déjà, de Frédéric Pajac. Il faut tous les lire, c'est absolument génial. C'est aux éditions Noir et Blanc. En France, Mathieu Colombe, à Aix-en-Provence.
Oui, eh bien, moi j'ai un coup de cœur pour Cécile Coulon avec son petit recueil de poésie en prose qui s'appelle Les Ronces. C'est son premier d'ailleurs. Alors c'est quelque chose de très intime, avec beaucoup de pudeur à la fois. Il s'en dégage énormément de grâce. Elle a un style qui est vraiment très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artifice inutile. Mmh. On arrive directement dans le vif du sujet. C'est assez magnifique.
Et c'est de Cécile Coulon, Les Ronces aux éditions Castor Astral. Merci Mathieu.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et on vous emmène en reportage en Haïti pour conclure cette saison. Nous allons vous faire découvrir un lieu artistique étonnant et historique, créé et dirigé par une famille suisse depuis les années 50. Voilà, on est arrivé à la galerie Monin sur les hauteurs de Port-au-Prince. Bonjour Michel Monin.
Bien le bonjour.
Merci beaucoup d'accueillir la librairie francophone ici, dans ce domaine, car c'est un domaine magnifique. Il y a une maison qui contient toutes sortes d'œuvres d'artistes haïtiens. On va revenir sur tout ce que vous avez fait, tout le travail depuis et toujours pour les artistes haïtiens. Et puis il y a comme ça une atmosphère, un environnement flamboyant ici. On se sent particulièrement bien, particulièrement heureux. Vous avez réussi à générer une ambiance.
Enfin, merci pour tous ces compliments. Je ne pense pas que je sois les seuls à la mériter. Ce domaine est très ancien. C'était mes parents qui étaient ici. Donc, ça fait très longtemps qu'on est là. On est des fanatiques de l'environnement. Donc, on a reboisé parce que j'ai planté des centaines de bambous. Il ne nous manque qu'un petit panda.
Ça peut s'arranger, vous savez. Bon, effectivement, il y a toutes sortes de verdure ici. On a des palmiers, des bananiers, des bambous. On est dans une atmosphère très naturelle. Vous êtes né à Bienne, en Suisse, Michel. Votre famille s'installe en Haïti alors que vous avez 7 ans. Ils ont un magasin à l'époque qui s'appelle les Galeries Suisses. Et vous vendez des dentelles, des montres, des parfums. Le magasin ne rapporte pas beaucoup d'argent, alors... Comme c'est le début de la période de l'art haïtien,
du centre d'art,
dans les années 70, il change.
Mes parents sont collectionneurs et ils deviennent très amis avec David Peters, qui a été le fondateur du centre d'art. Et donc là, c'est là qu'ils commencent à avoir leur collection. C'est-à-dire qu'il avait une qualité de vendeur. Je pense qu'il aurait pu vendre de la glace aux Esquimaux. Donc c'est comme ça que... Ça a évolué jusqu'au jour où on s'est dit, il faut faire une galerie.
Donc les galeries suisses deviennent la galerie Monin et vous découvrez très vite avec votre famille les peintres haïtiens. Il se passe quelque chose de très particulier ici parce qu'il y a plein d'artistes qui peignent dans leur coin, qui ne sont pas organisés du tout. Il y a un style qui émerge, qui naît.
Oui, c'est-à-dire qu'à cette époque, il y a... de moins en moins le peintre naïf, ce qu'on appelait le peintre naïf ou l'art brut, si vous voulez. Et donc moi, je commence avec des très jeunes, ils avaient 15-16 ans, et je leur dis maintenant, il faudra 70% de transpiration et 30% d'inspiration.
On va visiter cet endroit, cette demeure où habitaient vos parents, vous habitez aussi aujourd'hui. Une demeure qui est complètement transformée en galerie d'art. On est dans une maison, imaginez une maison, une vaste maison avec plein de pièces. Que ce soit les toilettes, la salle de bain, la cuisine ou le salon, il y a des œuvres d'art partout. Et c'est magique parce qu'il y a vraiment un éclectisme incroyable. Vous avez invité deux personnalités, Michel Monin. C'est Mario Benjamin qui est chef de file de l'art contemporain haïtien. Et puis on a un musicien aussi, Mouchi Wimbo. Corinne Maillère, qu'on va interviewer tout à l'heure, qui sont avec nous. On va commencer à déambuler dans la galerie. On y va, Michel?
Oui, allez-y. Allons-y.
Donc, on rentre dans cette salle et il y a déjà plein d'œuvres. Des souvenirs aussi. J'ai vu une lettre d'Hillary Clinton qui vous remerciait. Il y a André Malraux aussi qui est venu dans cet endroit. La médaille de la ville de Nice. Vous avez parcouru le monde.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on a fait des expositions, je dirais, partout.
Donc il y a des patios. On a, dans cette déambulation dans la maison, évidemment, des commodités, les sanitaires. Il y a des toiles partout. Vous vivez au milieu de l'art.
Bon, on en a beaucoup, beaucoup ces temps-ci, parce que je dirais qu'il n'y a pratiquement pas de vente. Vu que le pays a une telle mauvaise réputation ces temps-ci, qu'il n'y a pas de tourisme. Or, 80% de notre chiffre d'affaires a toujours été fait par les touristes. Notre meilleure période remonte à Jean-Claude Duvalier, vous vous rendez compte? À partir de là, c'est...
Vous dites ça, la meilleure période, c'est à l'époque de Duvalier.
Duvalier, ouais. C'est là qu'il y avait le Club Med, donc il y avait un afflux de tourisme, ouais. Etc.
Malgré tout ce qu'il a fait, vous arrivez à dire ça aujourd'hui?
Qui a fait quoi?
Duvalier.
Ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire avec la politique. À l'époque,
oui, bon.
À l'époque, il y avait quelque chose qui était certain. Le pays était sécur, ce que nous avons perdu. Donc maintenant, plus personne ne vient en Haïti parce qu'ils ont peur. Voilà.
Vous regrettez, vous, cette période de Duvalier?
Bon, je ne la regrette pas au niveau de la nationalité haïtienne, oui. Mais je la regrette au niveau affaires. C'est sûr.
Il faut distinguer les deux,
oui.
Vous croyez?
Oui. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Parce que je vous dis, c'était là qu'on a fait nos meilleurs chiffres d'affaires.
Bon, oui. On va monter à l'étage, Michel Monin. Et on arrive donc devant une toile magnifique, franchement. Alors, c'est incroyable, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en antenne, c'est que on a fait une petite visite avant, des repérages comme on dit, et je suis tombé comme ça devant cette toile rouge, et j'ai demandé de qui c'était, et on m'a dit c'est de Mario Benjamin, donc ça tombait bien parce que c'est notre invité. Bonjour Mario.
Bonjour, comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va, je suis toujours vivant.
Vous êtes un artiste peintre autodidacte, vous mettez à la peinture à l'âge de 14 ans, vous exposez pour la première fois à l'âge de 20 ans, et vous vendez toutes vos toiles. Succès immédiat.
Ouais, mais c'est fini, ça.
C'est fini, ça.
Ça fait 40 ans. Ça fait 35 ans. Il y a eu plein de choses qui se sont passées entre-temps. Départ des Duvaliers, le tremblement de terre. Plein de choses qu'on associe fâcheusement à Haïti. Le marasme qui n'a pas arrêté depuis une trentaine d'années.
Depuis le départ de Duvalier?
Oui. Le départ, la fin d'une dictature qui avait plein de désavantages, mais qui avait aussi une forme de stabilité douteuse, mais stabilité quand même.
C'est difficile de l'exprimer.
Je le dis avec difficulté parce que je n'ai pas grandi dans une famille où on m'a appris à vénérer les Duvaliers. Mes parents, qui étaient des riches héritiers, avaient encore tout ce qu'ils possédaient. Et nous avons été, depuis le départ des Duvaliers, dépossédés de tout ce que nous avions. Et aujourd'hui, il n'y a même pas un musée à Port-au-Prince. La plupart des galeries ont fermé, sauf la galerie Monin.
Qui s'est déplacée, en plus.
Qui s'est déplacée pour fuir la paupérisation de Port-au-Prince.
Alors cette toile, racontez-nous, décrivez-nous cette toile, Mario Benjamin.
Bon, c'est difficile de raconter mon travail parce que ce qui m'intéresse justement, c'est de déboucher sur un espace qui n'est pas du tout anecdotique. Je fume beaucoup, je bois beaucoup pour peindre, ce qui est une façon de fuir la réalité et donc d'échapper aussi aux explications. Bon, c'est un personnage, ouais. Mais qui n'est pas un individu en particulier.
Avec deux couleurs dominantes, noir et un rouge.
Là, c'est quelque chose que j'ai retenu des enseignements de Picasso, qui recommandait l'économie de moyens.
Avec des couleurs très vives, fluorescentes même, vous allez très loin dans les couleurs.
Avec une couleur fluorescente, oui. C'était une façon pour moi à l'époque, puisque ça fait près de 20 ans que je m'en sers, c'était une façon pour moi à l'époque de me démarquer de l'art haïtien tel qu'on l'entend, naïf, primitif, toujours dans un registre de couleurs. Moi, je me réclame du monde. Autant que je sais qu'il existe une identité haïtienne, mais je n'ai jamais cherché à la voir dans mon travail de peintre.
Oui, parce que vous avez voyagé aux États-Unis, en Europe, et vous dites avoir aiguisé votre regard artistique en puisant dans l'influence de tous ces pays.
J'ai longtemps dit que j'étais un disciple de Francis Bacon.
De Voltansky aussi.
De Voltansky. Je ne dis plus ça. Aujourd'hui, quand on me demande de quoi je me réclame, je dis tout bêtement que je ne sais plus.
On dit que vous êtes bipolaire, vous en parlez sans problème.
Maintenant j'arrête d'en parler parce que ça m'a desservi. Beaucoup de gens m'ont lâché parce qu'ils ont peur de moi. Je suis un fou, alors que bon, la folie c'est un épisode qui dure très peu. Mais la folie a, dans un certain sens, beaucoup porté mon travail.
Ouais. Vous dites ça, ouais. J'ai pas eu besoin de drogue, moi. Je me suis servi de cette maladie-là pour créer.
Quoique aujourd'hui, je me sers beaucoup. Bon, je ne sais pas si on peut en parler à la radio.
Allez-y.
Je suis un grand fervent du cannabis. J'associe le cannabis à l'alcool, ce qui est profondément décommandé par mes psychiatres. Mais la création est accompagnée de peur. À chaque fois qu'on doit créer, si on est honnête par rapport à ce que l'on fait, on a la peur de se répéter, on a la peur de faire comme les autres, on veut se dépasser à chaque fois, et ces substances aident.
Mais on dit d'ailleurs que les Sioux, avec lesquels il met de la paix, il n'y avait pas que des herbes normales.
Qu'est-ce que vous appelez normal?
Bon, en tout cas, c'est magnifique, votre travail est incroyable, Mario, vraiment, merci. C'est sublime. Si vous aimez Francis Bacon, si vous aimez Boltanski, voyez l'œuvre de Mario Benjamin, parce que c'est l'équivalent, carrément, c'est sublime.
Bon, on pourra pas se servir de la radio pour les voir.
On mettra ça sur notre site internet si vous le permettez.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
On va aller sur une terrasse dans cette demeure magnifique. Il y a une petite terrasse là et on va aller rejoindre Mushi Widmayer.
Une sélection que l'on aime bien écouter.
Et on va le faire découvrir à tout le public francophone qui nous écoute dans cette librairie francophone ici à Port-au-Prince, sur les hauteurs de Port-au-Prince. Et on sort sur cette sublime terrasse, il y a un soleil rayonnant tout autour de nous, cette végétation, ces arbres. Et Mushi Widmayer, bonjour Mushi.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes un pianiste moderne, Mushi, qui transcende tous les styles, car vous avez grandi dans l'ambiance du métissage. C'est ça qui vous a construit, vous aussi.
Oui, en fait, non seulement dans le métissage, mais surtout, je pourrais dire, dans la famille, parce que mon père est musicien, on est quatre frères, on est quatre musiciens aussi, donc c'est une affaire génétique, finalement. Même mes arrière-grand-mère, grand-père et tout, etc., sont soit poètes ou musiciens et tout, etc. Donc, disons que l'art et la musique, c'est quelque chose, on a grandi là-dedans, quoi.
Et en 1981, vous créez le groupe Zeklé avec votre frère qui est aujourd'hui organisateur du Pape Jazz Festival, un festival incroyable, 40 concerts environ à travers toute la ville de Port-au-Prince tous les ans. Et il y a une dizaine de musiciens qui vous accompagnent à cette époque et qui croisent tous les genres, le rock, le funk, le jazz et surtout le compas.
Oui, bien sûr. La musique était un petit peu... ça piétinait, je pense. Donc on a voulu faire un truc, on peut pas appeler ça une fusion, mais comme vous voulez dire, une sorte de métissage entre la musique moderne, le jazz et tout, etc., et la musique locale. Ce qui est devenu après ce qu'on peut appeler le créole jazz maintenant, qui se joue actuellement. C'était un cri, quoi, tu vois, pour ce qui se passait, pour essayer de changer les choses. Mais bon, je pense que... je ne sais pas si on a réussi, mais...
Donc, on arrive à s'entendre quand même, la preuve. Michel Mona vous invite. Et finalement, on parle politique très sereinement en Haïti, même si les divergences sont fondamentales.
Absolument, absolument. À moins qu'on soit bête... finalement, on va pas pouvoir parler, on y est disputé, je pense.
Bon, merci Michel Monin, merci beaucoup d'avoir accueilli la librairie francophone ici, dans votre demeure, la galerie Monin, à Port-au-Prince. Merci beaucoup.
Ça nous a fait plaisir.
Merci. Merci Moshe Widmayer.
Le plaisir est pour.
Mario, il est où Mario? À bientôt Mario.
À bientôt, merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et nous serons à Port-au-Prince pour la librairie francophone estivale qui lance donc sa troisième saison le week-end prochain. Ce sera la quatrième étape d'un grand voyage en 9 escales dans de nombreux lieux à travers le monde francophone. Et nous serons avec Néhémie Pierre Dahomé, Ketli Mars, Lionel Trouillot ou encore le grand musicien congolais Ray Lema. Voilà, on va terminer avec deux derniers libraires et deux autres conseils de lecture pour l'été avec Nathalie Clairin pour la Belgique. Que faut-il lire absolument cet été, Nathalie?
Alors, il faut lire l'excellent polar d'Emmanuel Grand intitulé Kisanga, qui vient de paraître en livre de poche. Alors la scène est géopolitique, aussi actuelle que plausible, un projet de partenariat entre la Chine et la France pour exploiter une mine de cuivre en RDC. Un vieux scandale médiatique, des enjeux économiques énormes et la barbarie jamais loin. Je ne vous en dirai pas plus, plongez dessus sans hésiter.
Kisanga d'Emmanuel Grand au livre de poche. Merci beaucoup Nathalie, même s'il n'aime pas les livres dits de l'été, il va vous en conseiller un quand même. C'est à la télévision hein, que vous aviez fait un coup de gueule là-dessus.
Ça se peut fort bien, oui.
Allez-y, les fameux livres Jérémy Laniel.
Mais en jeunesse, vraiment, si on veut, pour vraiment décrocher un temps soit peu, Anna Caritas de Patrick Isabelle, c'est publié chez Les Malins. C'est parfait, on parle d'un petit village Saint-Hector, un pensionnat, des jeunes qui s'ennuient, une nouvelle élève qui arrive, fille de rocker qu'on croit sorcière, une planche de Ouija. Voyez un peu genre frissonner dans au cœur de la chaleur de l'été. Anna Caritas, c'est vraiment bien fait, ça rappelle King, parfait pour les jeunes.
Et c'est aux éditions Les Malins pour le Québec et Kenness pour l'Europe. Voilà Carole, vous avez des idées de lecture du coup.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à tous nos libraires qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission et tout au long de cette saison.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici l'artiste Abel Chéret avec un extrait de Western Eros.
On fait claquer la porte du saloon. Les figurants aux yeux noirs se retournent. Un silence pesant règne dans la salle. Nonchalant, impassible, on s'installe. À la fenêtre, le spectacle commence. Au loin, la poussière d'une diligence. De cow-boys mal rasés, le regard louche. L'arme au poing pour ne pas rater le coche. Sont embusqués de part et d'autre du chemin. Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains. Toi, t'as la tienne sur mon revolver. Je ne tiens plus, mon pouce s'accélère. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au passage du convoi très convoité, les deux brigands cinglés font siffler leurs balles. Contre ma cuisse, mon colt est chargé. Tu me regardes et les chevaux s'emballent. Le lourd chariot se renverse sur le côté. Les bagages et les passagers ventrés. Les assassins enfin s'emparent du pognon. Tu me retiens par le bout du canon. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas. Je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Non, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas, je ne dégainerai pas. Au soleil couchant, s'enfuit les malfrats.
C'était Abel Chéret avec Western Eros, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Jacqueline Castonguet au Canada avec Christophe Imbert en France, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère et les équipes de l'RTS, de l'RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, ce sera le début de la grille d'été sur France Inter. Je vous retrouve tous les samedis et dimanches à 18h pour le Club Estival le samedi, votre magazine international de l'actualité culturelle, et la librairie francophone estivale le dimanche pour un grand voyage francophone avec des livres, de la musique, des rencontres et des escales dans 9 villes du monde. Je vous souhaite de passer un très bel été avec nous, je l'espère, et un grand merci pour votre fidélité cette saison encore. C'est vous qui faites le succès de cette émission. Bonne semaine, bon week-end, salut.